Vous écoutez Bestseller, le premier podcast francophone qui vous dévoile les secrets du marketing des plus grandes enseignes. Steve Crispin va vous expliquer comment intégrer les techniques des plus grandes marques pour développer votre business sur un marché en constante évolution. Reconnu pour son approche hybride du marketing, à contre-courant des pratiques commerciales traditionnelles, Steve vous partage son expérience et va faire de vous un best-seller.
Bonjour, je m'appelle Steve et je vous souhaite la bienvenue dans Bestseller. Bestseller est un podcast, une émission dédiée au marketing, à la publicité, à la communication, au branding, bref, au business développement de manière plus générale. Je pense que le titre Bestseller est assez explicite. Vous l'aurez compris, on ne va pas parler des grands classiques de la pâtisserie bretonne. Alors, je vous invite déjà, tout de suite, là, pour démarrer, à vous abonner à ce podcast et le mettre dans vos favoris, parce que chaque semaine, je vais vous parler des techniques marketing utilisées par les plus grandes marques pour se développer. Et vous verrez que la plupart de ces techniques, de ces études de cas même, parfois aussi, de ces petits trucs et astuces, comme on peut appeler ça, sont accessibles à absolument tout le monde, quelle que soit la taille de votre entreprise ou sa réalité économique. Je tiens aussi à préciser que dans cette émission, je vais faire mon maximum pour vulgariser le contenu, de sorte à ce qu'il parle au plus grand nombre. Et je vais vraiment éviter de rentrer dans trop de technicité, dans trop de termes complexes. Le but, c'est vraiment que ces techniques soient expliquées comme si vous aviez 4 ans. Enfin, 4 ans, j'exagère un peu, on va dire 10. Mais l'idée, c'est d'être vraiment très accessible et vous verrez que le marketing, de manière générale, est quelque chose d'assez simple et plein de bon sens, en fin de compte. Et l'idée, c'était de vous partager aussi mes expériences du terrain dans la pub et dans le marketing, et surtout dans le contexte d'un monde qui avance à 300 km/h, dans une culture totalement ou presque totalement digitale. Vu que j'ai la chance de travailler au quotidien avec un très grand nombre d'entreprises, de marques majeures, de grands groupes, en tant que consultant en marketing et en publicité, et surtout en médias digitaux. Mon quotidien est absolument passionnant. J'ai la chance de rencontrer des gens vraiment extraordinaires et faire un travail, en plus d'être passionnant bien sûr, très créatif, ce qui est très important pour moi, vous comprendrez au fur et à mesure pourquoi. Et je me suis dit donc que ce serait pas mal de partager ce quotidien avec des entrepreneurs ou des futurs entrepreneurs. Alors, on va parler évidemment de business model, on va parler de techniques de vente, de stratégie de contenu, de médias sociaux, de publicité, de créativité, de branding, bref, de marketing de manière plus générale. Et j'aimerais profiter de ce premier épisode pour établir les bases, du moins les miennes, vous expliquer ma vision générale de ce métier, histoire qu'on parle la même langue, et que vous puissiez tirer le maximum de valeur des prochains épisodes et sujets, vu que maintenant vous êtes désormais abonné à ce podcast. Alors, très brièvement, je vais vous parler de moi, mais vraiment très très brièvement, ça vous aidera probablement à mieux comprendre certaines choses dans mon approche. Avant d'être chef d'entreprise, consultant en marketing, voilà, formateur et autres, j'ai fait une carrière de 15 ans dans l'industrie de la musique. Donc j'ai commencé, peu de gens savent ça de moi d'ailleurs, j'ai commencé comme guitariste freelance, où j'accompagnais des artistes, travaillais pour des productions, des maisons de disques et autres, et mon travail était, d'être caméléon. Je devais m'adapter réellement à la réalité quotidienne de ce qu'on me demandait de faire. J'ai pas grandi à Nashville, je vais pas dire hélas, mais voilà, là au moins j'aurais peut-être fait une musique, tous les jours j'aurais fait une musique qui est celle qui me plaît, mais non, c'est, là ici en Europe, enfin en Belgique en particulier, j'ai grandi en Belgique, je devais m'adapter au quotidien à ce qui venait en fait, donc je devais pouvoir faire le caméléon, voilà, pouvoir juste répondre aux besoins. Et donc très vite, j'ai eu la chance évidemment déjà d'avoir cette facilité de pouvoir le faire, c'est pas forcément donné à tout le monde, il y a eu beaucoup de travail derrière, mais surtout j'avais cette facilité d'adaptation, mais j'ai dû quand même le travailler, j'ai dû quand même développer ça, et ça m'a bien 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 servi par la suite, parce que ce que je fais aujourd'hui c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que un jour on doit faire une campagne pour une marque de voiture, la semaine d'après c'est un produit financier, ensuite c'est un produit cosmétique qui se lance sur le marché, ensuite il faut trouver une identité pour un projet immobilier, bref, donc on est vraiment obligé de s'adapter, de se calquer à des milieux et surtout à des domaines qui sont peut-être pas à la base les nôtres, et donc ça demande cette faculté d'adaptation que j'ai eu la chance de développer dans ma carrière dans l'industrie de la musique. Et donc progressivement, après avoir été guitariste, je suis devenu réalisateur, arrangeur, producteur, éditeur même à un moment donné. Et quand le disque s'est, pour parler platement, cassé la gueule, avec l'arrivée du digital, iTunes et autres, eh bien, ça devenait très très difficile de faire de l'argent avec la musique, soyons clairs. Et donc on s'est adapté au marché et progressivement on a fait de la relation média, on a commencé à couper dans nos productions pour les synchroniser à la publicité, à l'image et autres. Et de manière totalement naturelle, je me suis retrouvé un jour à créer des campagnes publicitaires pour des marques, jusqu'au jour où on nous a demandé de complètement gérer des plans, et puis ensuite, ce qu'on fait aujourd'hui, à savoir créer complètement des marques. Et je me suis retrouvé 2 ans après à faire ça, sans même me rendre compte que j'avais changé de secteur, ou plus ou moins. C'est-à-dire que vendre un disque, créer une identité, et ensuite emballer un produit tel qu'un véhicule, tel qu'une paire de chaussures ou autre, et dans le but de le vendre à quelqu'un, le process est le même, le procédé est exactement le même. Un bon vendeur, celui qui a compris la psychologie de la vente, qu'il vende, encore une fois, une voiture, des chaussures, un produit financier, des produits cosmétiques ou autres, c'est exactement pareil. La sensibilité peut varier en fonction des marques, en fonction des cibles, etc. Mais le procédé est exactement le même. Et une fois qu'on l'a compris, on peut l'adapter à plus ou moins n'importe quoi. Et c'est ça mon quotidien, réellement. Et c'est assez passionnant parce qu'il faut parfois, il faut tout le temps se remettre en question parce qu'encore une fois, c'est pas tellement le produit et le marché. C'est la conjoncture actuelle, c'est le fait qu'on évolue dans un monde qui est totalement digital, pratiquement totalement digital. Surtout, les formats changent tout le temps et les modes d'utilisation des médias évoluent constamment. C'est là la plus grande difficulté, c'est-à-dire qu'à l'époque, je pense, où les publicitaires et les marketeurs n'avaient que entre gros guillemets, hein, acheter des espaces télévisés pour bombarder le public de messages, c'était du mass market, ils savaient qu'ils touchaient X millions de personnes et que la statistique, le calcul était simple, hein, c'était voilà, on touche 1 million de personnes, il y a X% de convertis, X% de ventes, et donc on investit 100 000, on sait qu'on va en récupérer 300 000, donc si on met 200 000, on récupère 600 000. Je vulgarise encore une fois, c'est très grotesque comme analyse, mais le principe c'est ça. Aujourd'hui c'est un petit peu plus complexe quand même, parce qu'on est dans une conjoncture, dans un monde, au quotidien, où la disponibilité de choix augmente sans arrêt, et la disponibilité de temps diminue sans cesse. On a l'impression d'avoir de moins en moins de temps, alors qu'on a de plus en plus de choix à faire tout le temps. On est sollicité en permanence. Et le gros challenge aujourd'hui, c'est de toucher la bonne personne au bon moment, sur le bon média, avec évidemment le bon message, et surtout quelque chose qui va correspondre à une recherche, à une demande et une envie qu'il a à ce moment précis. C'est assez compliqué, mais on a les outils pour le faire aujourd'hui, et on passe beaucoup de temps à analyser les comportements, évidemment. Bref, je reviendrai là-dessus, évidemment, dans quelques épisodes. Aujourd'hui, maintenant, ce que je vais vous expliquer, donc, c'est encore une fois mon approche, ma philosophie par rapport à tout ça, histoire que vous compreniez simplement la manière dont je vois les choses. D'accord ? Alors, on me demande souvent la différence dans mon travail entre la publicité, la communication, le marketing ou encore le branding. Et on me dit, mais Steve, c'est pareil, en fait, créer une marque ou faire du marketing, c'est la même chose. Ben non, pas tout à fait. Et je trouve que c'est important de le préciser directement. Il y a quatre points importants: publicité, la communication, le marketing et le branding. Alors, la publicité, pour démarrer avec quelque chose, c'est la vente. C'est de la vente, indirecte, mais de la vente. D'accord ? C'est le dernier point de contact entre la marque et le consommateur. Au-dessus de la publicité, on a la communication. La communication, c'est la tactique, c'est le format. Le marketing, qui est au-dessus de la communication, c'est la stratégie qu'il y a derrière tout ça. C'est le chef d'orchestre. Et il y a encore un élément bien plus important au-dessus, c'est le branding, la marque. La marque, elle représente la culture, la vision et la mission. Elle représente la valeur ajoutée, la philosophie et la solution à un problème. Ça, c'est une marque. Alors, une marque forte véhicule à elle toute seule toute une série d'éléments qui vont transmettre une valeur par le biais d'émotions. Et le rôle du marketing, de la com et de la pub ensuite, c'est d'en faire bon usage pour toucher au mieux les bonnes personnes. Ça, c'est une bonne base de mon approche personnelle, bien que ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Ce que je vous raconte là, ça ne sort pas de ma tête. Je veux dire, c'est pas non plus une réalité absolue, mais c'est dans les grandes lignes de ce qu'est la com, le marketing et la publicité. C'est la manière dont la hiérarchie se fait, d'accord ? On va faire un petit comparatif pour être sûr que ce soit très clair. Il y a le branding et le marketing. Faisons la différence entre les deux. Le branding, donc la marque, c'est le pourquoi. Le marketing, c'est le comment. Le branding, c'est le long terme. Le marketing, c'est le court terme. Le branding, c'est le macro. Le marketing, c'est le micro, vision micro. Le branding dicte une direction, alors que le marketing définit des stratégies et ensuite des tactiques. Le branding, c'est la raison pour laquelle on achète, alors que le marketing, c'est la raison pour laquelle on achète la première fois. Le branding construit une loyauté, et le marketing génère une réponse. Le branding, c'est être, et le marketing, c'est l'action. Est-ce que vous cernez la différence ? Je pense que ça, c'est peut-être plus clair de voir les choses comme ça. Donc, en effet, dans mon travail au quotidien, je me concentre beaucoup, beaucoup sur le développement de marque. Que ce soit pour des startups ou des petites entreprises qui veulent installer leurs produits sur le marché ou des plus grands groupes qui, de par leur taille, doivent parfois revenir à l'essentiel et se concentrer sur l'essence même de leur valeur, à savoir leur marque. Comme je disais tout à l'heure, le monde évolue tellement vite qu'il faut parfois marquer un temps de pause et se remettre en question. Et c'est ce que beaucoup de grandes marques, beaucoup de grandes entreprises font. Elles se demandent, qui sommes-nous réellement en tant que marque ? Comment sommes-nous perçus ? Et c'est très souvent là que j'interviens. Alors je dis souvent, le marketing et la publicité, si c'est bien fait, ce ne sont pas des dépenses, mais des investissements. Une marque, par contre, si elle est bien construite, c'est un actif. Et réfléchissez bien à ça. Les plus grandes entreprises ont très bien compris ça. L'importance et la valeur de se développer en tant que marque. Il y a une grosse différence entre faire un chiffre d'affaires par un nombre de produits vendus, à savoir une entreprise, et créer une marque pour générer un actif. Si demain vous achetez Nike, vous n'allez pas acheter une usine à chaussures, vous allez acheter une marque. Si demain vous achetez Apple, vous n'allez pas acheter une usine qui fabrique des ordinateurs, des tablettes, des smartphones et des designers. Non, vous allez acheter une marque. Je prends ces deux marques-là parce que je trouve qu'elles sont, c'est des bons exemples, elles sont très 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 fortes. Si par exemple demain Apple ou Nike se dit tiens, on va sortir un hôtel, on va mettre sur le marché une chaîne d'hôtels, fermez les yeux deux secondes et imaginez à quoi ça va ressembler. Je suis certain que vous arrivez déjà à vous dire ok, si demain il y a un hôtel Nike, j'ai déjà vaguement une idée j'imagine en tout cas, j'ai ma vision de la marque, donc je peux projeter le résultat et voir un petit peu dans quel univers on va se retrouver. C'est pas le cas d'une entreprise, d'une SARL, peu importe quoi, qui se dit tiens, je vais investir dans l'immobilier et faire des chambres d'hôtes. Non, ce n'est pas une marque, c'est un business qui va générer des revenus sur une transaction à court terme, sur un produit indirectement lié à l'immobilier, à savoir le logement. Bref, la chose est totalement différente. Une marque, une fois qu'elle a créé une identité très très forte, ça devient réellement un actif. Et si vous achetez Nike demain, l'usine, elle va vous coûter rien du tout. Par contre, la propriété intellectuelle de la marque, là par contre, ça va vous coûter des milliards. Parce que ce qui a réellement de la valeur, c'est ça. C'est la marque, c'est pas le produit. D'accord ? Alors, on pourrait effectivement développer un petit peu cet aspect aussi valeur de marque, parce que étant ici au Luxembourg, nos voisins chez Color étant d'un côté PayPal, de l'autre côté eBay, il y a beaucoup de moyens de mettre en place de l'optimisation sous le couvert de la propriété intellectuelle par le biais de holding de marques. C'est quelque chose qui se fait beaucoup ici au Luxembourg, c'est une plateforme tournante pour les holdings de marques parce que la législation est faite pour ça. Et effectivement, en arriver à ce point de se dire voilà, je vais faire une holding pour gérer ma marque et ma propriété intellectuelle, il faut déjà avoir un certain niveau de développement, mais on en arrive à un moment donné à activer des leviers de rentabilité qui sont tout autres. Et le fait de partir de votre projet, le considérer comme une marque, vous projette dans des perspectives qui sont bien plus importantes que juste essayer de prendre des parts de marché à vendre un produit à plus ou moins grande échelle. On y reviendra peut-être, et j'ai quelques invités que j'ai en tête avec qui on pourrait débattre sur ce sujet-là, parce que c'est très très intéressant. Et vous allez voir que le volet branding va pas mal nous occuper ici dans Best Seller. Donc je vous conseille encore une fois à vous abonner à ce podcast. Pour ne pas rater évidemment ces sujets qui seront d'ailleurs aussi croustillants qu'intéressants. Bref, pour en revenir à la force de la marque et ensuite l'importance du marketing, je vais vous donner un petit exemple qui sera peut-être encore plus parlant. C'est un petit cas concret. Question, est-ce que vous pensez que McDonald's est le meilleur restaurant du monde? Est-ce que vous pensez que McDonald's produit les meilleurs burgers du monde? Ben non, clairement pas. Par contre, ils sont numéro 1 dans le monde. Tous les jours, McDonald's nourrit 1% de la population mondiale. Ça fait peur, je sais, mais c'est vrai, c'est la réalité. Pourquoi sont-ils numéro 1 avec un produit qui n'est pas le meilleur? Ben simplement parce que leur marque est forte. Et surtout, leur marketing est le meilleur. Si vous regardez le film The Founder, j'oublie toujours le nom de l'acteur qui joue Ray Kroc, honte à moi, super acteur d'ailleurs, Ray Kroc disait « Ce nom est génial, il sonne tellement bien qu'il incarne les valeurs de l'Amérique », en parlant de McDonald's. McDonald's incarne les valeurs de l'Amérique juste de par la sonorité de son nom. Et c'est un petit peu ça. C'est vraiment ça. Et encore une fois, voilà, ce qui fait que McDonald's est numéro 1, c'est parce que leur marketing est extrêmement efficace. Ils sont partout, ils sont à chaque coin de rue. Et ils ont inventé, évidemment, le concept de la restauration rapide, mais ils ont surtout inventé un concept marketing qui est encore plus fort que ça, à savoir diriger le consommateur vers un choix qui était préétabli pour lui. Encore une fois, on y reviendra dans un prochain épisode. En comparaison maintenant à McDonald's, si on prend des gens comme Massimo Bottura, Alain Ducasse, Joël Robuchon, et l'ensemble des meilleurs cuisiniers au monde. Bien que leur produit soit, dans ce cas précis, le meilleur, ils ne représentent même pas 0,5% du marché. Alors, 0,5% du marché, ça peut paraître petit. En même temps, c'est énorme, 0,5% du marché. Et donc, on va se dire, oui, mais on pourrait se dire que voilà, ils ont du mal à se développer, etc., et que c'est difficile pour eux. Clairement pas, soyons clairs, ces trois-là, je crois que tout va très bien pour eux. Leurs entreprises fonctionnent bien, ils génèrent du profit, ils sont, voilà, c'est des entreprises qui se portent à merveille, et leur affaire tourne magnifiquement bien. Et quand je dis 0,5% du marché, je suis généreux, ça se trouve, c'est 0,05% du marché. Mais donc, ça nous amène à un autre sujet et à un autre rendez-vous, évidemment. Je vais vous donner un autre rendez-vous pour un prochain épisode qui s'appellera le plus petit marché viable, à savoir créer une niche et la comparer au marché de masse. Et c'est là où le marketing est en lien direct avec la stratégie commerciale et économique. Ça, c'est un sujet qui va vraiment être intéressant. Donc voilà, un autre rendez-vous d'ailleurs pour les prochains épisodes de best-seller. Et donc, vous allez voir que des entreprises comme celles que je viens de citer, hein, Ducasse, Robuchon, Bottura, etc., ils ont peu de parts du marché, mais en même temps, ils ont la chance d'avoir une niche très précise et de créer une espèce de micro-monopole dans ces petites niches. Et donc, la stratégie peut être, d'un côté, comme McDonald's, prendre des parts de marché et faire de la masse, ou, de l'autre côté, se mettre dans un océan qui n'est pas rouge, mais un océan qui est peut-être un petit peu plus tiré vers le bleu, où il y a moins de monde, où il y a moins de concurrence, où c'est peut-être plus difficile de se faire remarquer, mais en tout cas, une fois qu'on y est, on a plus d'espace. Ce sont deux stratégies différentes. Et ça, c'est le marketing qui va aussi indirectement diriger ce type de choix. Donc, pour résumer cette petite mise en bouche de ce que va être ce podcast, on va retenir aujourd'hui que la base qui constitue le développement des entreprises à succès est de se positionner comme une marque et une marque forte, pour les raisons que je viens d'expliquer, et dont on reparlera très souvent. On peut donc être fan d'une marque et porter son logo sur un t-shirt, alors qu'on n'est pas fan d'une société ou d'une entreprise. On peut résumer ça comme ça. Le mec qui se promène en ville avec un t-shirt sur lequel il est écrit Jean-Michel SARL, ça ne veut pas dire qu'il est fan de cette entreprise. Ça veut dire qu'il bosse chez eux et qu'il est en pause déjeuner, ou alors que c'est Jean-Michel lui-même. Donc, seule une marque forte peut créer des fans et peut créer des mouvements. Et la seconde et dernière chose qu'on va retenir aujourd'hui, je terminerai cette petite présentation là-dessus, c'est une phrase qui m'est venue en fait pendant une interview que j'ai faite avec Claire-Agnès Guetin des éditions Contenta. Elle m'a un jour appelé, elle me dit « Écoute, voilà, j'aimerais t'interviewer pour mon blog. » Et elle me dit « Peux-tu m'expliquer pour toi ce qu'est le marketing ?» Et au moment où je réfléchissais, cette phrase m'est venue assez naturellement. Je lui ai dit « Écoute, le marketing est au commerce, ce qu'un metteur en scène est au théâtre ou ce qu'un réalisateur est au cinéma ou encore un arrangeur en musique. » Pour moi, donc, il orchestre valeurs, missions, personnes et opportunités pour raconter l'histoire d'une vision avec les bonnes émotions. C'est pas mal, ça. Je vais le redire une fois, tiens. Donc, il orchestre valeurs, missions, personnes et opportunités pour raconter l'histoire d'une vision avec les bonnes émotions. Voilà, c'est pas mal. Ça donne une petite baseline assez sympa. Et donc, c'est Claire Agnès qui m'avait conduit indirectement dans son interview à me faire dire que le marketing est au commerce, qu'un metteur en scène est au théâtre. C'est vraiment ça. Et c'est vraiment sur cette baseline-là qu'on va orienter le contenu de best-seller. Et c'est sur cette approche que j'espère encore une fois rendre le plus accessible possible à tout le monde, à tous les auditeurs. C'est sur cette base-là qu'on va vraiment orienter le contenu. Et c'est sur cette approche le plus vulgarisée possible que je vais vous partager ce que je vis au quotidien avec ces grandes entreprises, mais aussi avec ces TPE, ces PME et ces micro-entreprises, ces auto-entrepreneurs qui se lancent sur le marché. C'est des études de cas qui sont très intéressantes et vous allez voir que c'est toutes ces techniques qu'on a d'un côté utilisées pour les très grands groupes et pour les très grandes marques s'appliquent totalement aux petites entreprises et aux micro-entreprises même. Vous allez voir que c'est juste de la technique, c'est juste du bon sens. Et en fin de compte, ce qu'il y a derrière le branding, derrière le marketing, derrière la publicité, c'est quoi ? Bah, c'est de l'émotion, c'est de la psychologie, c'est simplement de l'empathie aussi. Et c'est pas plus compliqué de partager une vision et de partager une valeur avec des gens quand on vend un produit ou simplement quand on essaie de leur raconter une histoire ou créer un lien ou créer une relation avec eux de manière plus personnelle. C'est exactement la même chose et c'est ce qu'on va donc tenter de faire ensemble. Voilà, donc je vous invite encore une dernière fois à vous abonner à ce podcast. Je vous donne rendez-vous pour les prochains épisodes. Il y en a quelques-uns qui sont déjà prêts et que vous pouvez directement écouter à partir de vos plateformes préférées, à savoir Spotify, Stitcher, iTunes, Deezer, enfin bref, il y a toutes les plateformes possibles et imaginables. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour le prochain épisode. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt.
C'était Best Seller. Merci d'avoir écouté cette émission. Pour encore plus de contenu gratuit, rendez-vous sur stevecrispin.com et n'oubliez pas, STEEV.